Bonjour et bienvenue donc sur une nouvelle interview de Femmes Inspirantes. Et aujourd'hui, je vous présente Mathilde du podcast Z comme Zodiac, qui est un podcast que j'ai découvert il y a quelques mois et que je suis avec beaucoup d'attente. Enfin là, je suis contente, ça y est, on est arrivé enfin à mon épisode de mon signe à moi. mais j'attendais voilà les nouveaux épisodes avec impatience. Donc, bonjour Mathilde.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es, quel est ton parcours avant d'arriver jusqu'au podcast?
Bien sûr. Donc, voilà, moi Mathilde, je vais bientôt avoir 30 ans là en janvier et j'ai déjà eu plusieurs vies en fait en ce court laps de temps puisque après un bac général, je suis entrée à Sciences Po Paris. J'étais extrêmement jeune puisque j'avais juste 17 ans. Et quand j'ai terminé le parcours, j'en avais 21. Donc, j'étais en effet tout début même de ma vie de jeune adulte. Et j'ai travaillé brièvement pour les relations presse dans les médias, chez RFI et France 24 en particulier. Et en fait, je suis partie au bout d'un an. C'était pas un souci spécialement par rapport à cette profession-là, à ce poste-là, mais c'est surtout que j'ai eu une espèce de révélation que ce parcours finalement très classique que j'avais entamé, j'avais pas du tout envie de le poursuivre. Donc, c'était pas évident, maintenant je le dis et je repense à ça avec beaucoup même de tendresse pour la personne que j'étais, mais à l'époque j'avais l'impression que c'était la fin du monde et que vraiment le sol se pendillait sous mes pieds. Ça a été très très dur psychologiquement en fait d'arriver à cette conclusion que oui, que j'allais renoncer aussi à un certain confort. Et je suis partie passer un CAP pâtisserie en un an en apprenti puisque j'avais moins de 25 ans, donc c'était tout à fait possible, en restant dans le parcours public. Ça aussi, si j'insiste, parce que c'est possible, on n'est pas obligé d'aller faire des écoles qui coûtent les yeux de la tête. Il y a quand même des ressources en France. Donc, j'ai passé un CAP en un an en apprentissage. J'ai été pâtissière pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai ouvert le Politicafé, qui est un café-restaurant dans le 18e arrondissement à Paris, où à la fois, on est un restaurant relativement classique. Je fais tout maison, la carte change toutes les semaines. Voilà, on essaie d'être une cantine, on va dire, sympa, saine, mais accessible, avec des prix adaptés au 18e arrondissement, qui est un quartier populaire. Mais on accueille aussi des événements politiques, citoyens, associatifs, de collectifs, etc. Et l'idée, voilà, c'est que le lieu, ce soit pas simplement un lieu où on vient manger, même si c'est tout à fait possible, hein. Il y a des gens qui l'utilisent vraiment comme leur cantine ou leur restaurant sympa de quartier, mais qu'il se passe des choses, quoi, qu'il se passe des choses, qu'il y ait des liens qui se créent dans cet endroit et que ça serve aux citoyens, en fait. Voilà le concept du politique ethique.
Génial. Donc, à côté de ça, tu as développé un projet perso?
Absolument. Absolument. Donc ça, c'est le dernier bébé en date qui est sorti l'année dernière. Là, on s'apprête à fêter la première année de mon podcast qui s'appelle Z comme Zodiac. Et c'est un podcast d'astrologie qui n'a donc rien à voir à la base avec la restauration, l'entrepreneuriat, la politique, l'actualité. Donc, c'est encore autre chose. Et j'ai sorti ça il y a un an et ça a été une énorme surprise parce que j'ai lancé ce projet comme de la pure récréation, ce qui est assez rare d'ailleurs pour moi, où en fait j'avais vraiment besoin de m'aérer la tête puisque ce projet de création de restaurant à côté, c'est une vraie aventure qui a eu ses très bons côtés mais qui ne fonctionne pas non plus comme je le voudrais sur plein d'autres aspects et j'avais besoin de quelque chose qui n'avait rien à voir et que je ferais vraiment pour m'amuser, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai pas, par exemple, j'ai pas mis de deadline de publication. J'ai pas annoncé de rythme de publication, alors que c'est la base dans la création de podcast. Il faut annoncer est-ce que c'est mensuel, est-ce que c'est le deuxième lundi de chaque mois. Et ça fait partie, oui, des règles de base. Et moi, j'ai décidé de ne pas annoncer ça.
Au final, sur un an, tu as réussi à publier les 12.
C'est ça, exactement.
un podcast toutes les 3-4 semaines, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au final, le rythme, il a été respecté, mais du coup, ça appuie le fait que j'ai pris la bonne décision, je pense, parce que sinon, je me serais vraiment mise à stresser outre mesure. Mmh. Et voilà, moi, j'avais envie de partager ma passion de l'astrologie, qui est ancienne, hein, puisque c'est depuis que je suis petite que je m'intéresse à ça. Et ouais, ça revient...
Nous raconter un peu comment la mouche de l'astrologie t'a piqué.
Ouais, ça m'a pris parce que donc déjà ma mère avait commencé à se former en astrologie quand elle était jeune femme et quand elle était enceinte de ma sœur et de moi, c'était quelque chose qu'elle continuait à faire un petit peu de loin. Donc il y a toujours eu des manuels d'astrologie à la maison et moi on m'a toujours expliqué que les horoscopes de la fin du magazine, c'était pas de la véritable astrologie, que c'était inventé, que c'était un peu une matière dévoyée, quoi, même si on n'utilisait pas ce mot-là pour la petite fille que j'étais. Mais voilà, très vite, j'ai fait la différence et de toute façon, je voyais la différence entre les livres érudits, en fait, qui parlaient d'astrologie dans la bibliothèque familiale et qui donc étaient accessibles et certains contenus que je voyais passer, oui, dans des magazines télé, dans des magazines beauté qui n'étaient pas terribles. Et donc, j'ai très vite vu la différence. Et il se trouve que j'ai ma tante aussi, du côté paternel, ma tante Zoé Fachan, qui est chercheuse en astrologie, puisqu'elle n'est pas astrologue dans le sens où elle ne... C'est pas une activité ou alors des consultations, un service de consultation, etc. Elle, c'est vraiment l'aspect intellectuel qui l'intéresse le plus. Elle a écrit des ouvrages très pointus sur l'astrologie, de syntaxe astrologique et elle le faisait notamment avec un collaborateur qui s'appelait Didier Détourné, avec qui elle a écrit plusieurs ouvrages. Et donc, elle aussi a évidemment joué un rôle capital puisque c'était ma tante préférée que j'admirais énormément. Que j'admire toujours énormément, qui me forme maintenant et avec ma mère est prof de français à la retraite maintenant et toutes les deux, c'était vraiment les deux figures d'intelligence en fait quand j'étais petite qui valorisaient mon éveil intellectuel, qui valorisaient mes écrits, mes productions et toutes les deux étaient passionnées d'astrologie. Donc ça, je pense, jouait un énorme rôle dans mon intérêt.
Justement, j'allais te demander comment tu t'es formée, comment on fait pour savoir parce que bon, on voit bien qu'il y a quelques bouquins, mais j'ai, pour avoir un peu la curiosité, avoir l'envie de me former, je sais pas, enfin, on ne sait pas par où commencer.
Alors, en fait, personne ne sait par où commencer. Moi, quand je dis que j'ai demandé à Zoé, c'était il y a quelques années, et comme on habite à distance, honnêtement, ce n'est pas du tout une formation construite, même... voilà, on fait comme on peut. Elle aussi, elle est occupée. Elle m'envoie des choses à lire. Tiens, lis ça, tu me dis si tu as des questions. Enfin, voilà, on est plus sur cet ordre-là. Et quand on se voit, on peut parler pendant des heures et des heures. Puisque je l'adore, mais c'est la personne la plus bavarde du monde et que je ne suis pas en reste. Donc, on a vraiment des journées où on parle énormément. Mais on est très clairement, moi, je me suis plutôt formée en autodidacte, en fait. Mais c'est ça aussi qui est compliqué avec l'astrologie. Et moi, j'ai tendance à dire que je compare en fait ça à l'apprentissage d'une langue étrangère. Donc, on peut apprendre des choses. Moi, je l'ai fait parce que le japonais a une place très importante dans ma vie et les 3 premières années, j'essayais d'apprendre toute seule. Donc, c'est possible, mais très vite, il y a les limites de cet apprentissage parce qu'il faut pratiquer au quotidien parce que aussi... Il y a un aspect qui est souvent très compliqué dans l'apprentissage en autodidacte en fait où des fois il suffirait que quelqu'un vienne nous résumer la logique sous-jacente et tout de suite ça s'éclaire quoi et c'est vraiment la différence entre apprendre tout seul et apprendre avec un professeur ou donc en fait je vois plus l'astrologie comme quelque chose où moi j'ingurgite énormément d'informations et en fait pour la logique qui est derrière pour des choses en termes de mettre en valeur la cohérence, la précision, là, je vais voir Zoé. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, d'ailleurs, un petit peu d'avoir comme rôle beaucoup plus, de façon beaucoup plus modeste, parce que finalement, je débute en astrologie et plus on vieillit, meilleur astrologue on devient de toute façon. Donc, j'espère que je serai bien meilleure astrologue dans 20 ans que
c'est maintenant. C'est comme un bon vin, quoi.
Exactement. Mais parce que c'est aussi normal. Je pense que plus on comprend de choses sur la vie, plus on expérimente et plus on est capable de mettre en valeur aussi ce langage astrologique en disant « Ah, mais c'était de ça dont ça parlait vraiment. » Et moi, dans mon expérience, j'ai l'impression que ça m'ouvre ces portes-là. Donc, ça veut dire qu'en astrologie aussi, on peut se permettre de faire des ramifications. C'est un langage de l'existence, en fait, l'astrologie, un langage du monde en général. Donc, c'est une grille de lecture. Donc, forcément, tout ce qu'on va vivre vient enrichir aussi notre appréhension de cette grille de lecture. Je suis un petit peu partie. Ah oui, c'est ça, mais sur l'autodidacte, voilà, j'essaye aussi modestement de jouer un peu ce rôle à travers mes productions. Moi, je m'adresse très clairement à des débutants, en fait, à des personnes qui n'y connaissent rien ou qui connaissent déjà un petit peu, mais qui n'arrivent pas, en fait, à tisser justement cette toile. Et moi, j'essaye d'apporter un petit peu de pédagogie, un petit peu de vulgarisation. Et il y a des choses, moi, qui sont toutes simples en astrologie, qui permettent de mettre du sens dans ce qu'on apprend. J'ai vu aucun manuel les résumer comme ça. Et en fait, quand moi, j'ai compris la logique, quand moi, j'ai compris que ça fonctionnait en miroir, et tout de suite, je me suis dit, mais mon Dieu, mais pourquoi est-ce que personne me l'a dit avant? Et à la place, je bachotais aussi certains savoirs astrologiques et ça me bloquait dans mon apprentissage. J'avais l'impression que c'était lourd, quoi. Qu'il y avait trop d'informations à apprendre, que c'était arbitraire, qu'il fallait tout apprendre par cœur. Il aurait suffi de me montrer la logique pour vraiment me faciliter la tâche considérablement. Donc, c'est ce que j'essaye de faire un petit peu aussi à travers mon podcast et mes articles et mon compte Instagram, quoi.
Ce qui est chouette, en fait, c'est qu'on sent que... Moi, je te vois avec l'astrologie un peu comme moi, je suis avec le MBTI, c'est-à-dire que je vois quelqu'un passer dans la rue et dans ma tête, j'ai déjà fait ma grille MBTI et je sais un peu voilà, comment le catégoriser plus ou moins. C'est un peu mon alphabet. Et toi, on sent que c'est vraiment la même chose avec l'astrologie. Ou même, des fois, tu arrives à aller chercher même les ascendants sur des personnages politiques. En tout cas, tu vas quand même assez loin dans le truc. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que voilà, on sent que quand tu regardes un film, un Disney, n'importe quoi, tu lis les personnages à travers ce filtre de l'astrologie. Et du coup, ça t'amène sur cette pédagogie qui est vraiment super chouette. Moi, je trouve le format de tes podcasts vraiment chouette. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en moyenne 30 minutes, c'est ça, par épisode? Parfois un peu plus?
C'est ça, oui. Alors, les premiers... j'ai fait quand je tâtonnais et que je savais pas du tout comment ça allait être reçu, ils font plus 10 minutes, un quart d'heure. Et d'ailleurs, c'est une des grandes plaintes que je reçois de l'épisode du Bélier et l'épisode du Taureau, ils sont beaucoup plus courts que les autres. Ah bah oui, mais je savais pas encore comment ça allait être reçu. Ouais, on est sur la fin, on termine. Aussi parce qu'il fallait conclure le cycle et répéter beaucoup de choses aussi, justement pour faire émerger cette cohérence qu'on avait essayé d'établir en 10 épisodes, mais
okay,
donc oui, c'est à peu près 30 minutes et en effet il y a beaucoup d'extraits dedans qui sont utilisés voilà, de manière tout à fait comme une prof, là c'est le côté très pédagogue aussi que j'essaye d'avoir où j'essaye plutôt de piocher dans la culture populaire. Même s'il y a des fois des références un peu plus pointues, mais j'essaye d'utiliser quand même pas mal de références auxquelles les gens peuvent avoir accès très facilement ou en fait les ont déjà. Et comme ça, ils se disent « Ah, c'est tel type d'énergie, c'est tel type de dynamique. » Mais bien sûr, voilà, tout le monde connaît Sirène, même si tu connais pas le Disney, tu connais le conte d'Andersen et ça te permet de t'évoquer ce genre de choses.
Complètement. Et j'ai trouvé ça hyper accessible parce que justement, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui considère ne pas avoir beaucoup de culture populaire, culture générale, on va dire, sur tout ce qui est film et tout ça. Et il se trouve qu'il y a quand même une énorme majorité des extraits qui sont reconnaissables, même pour quelqu'un, voilà. Donc ça, c'est un challenge bien réussi. On m'a posé la question des droits d'auteur. Comment c'est défini les extraits que tu as le droit de publier, comment ça se passe?
Alors, il faut savoir que je suis pas spécialiste du droit d'auteur, mais je me suis quand même renseignée un peu avant. En fait, la loi française est quand même extrêmement, comment dire, elle nous laisse beaucoup justement de droits, à condition de pas faire d'argent.
D'accord.
Déjà, à condition. Si mon podcast était payant, ce serait une autre chanson. Littéralement, je pense pas utiliser grand-chose. Mais là, mon podcast, il est accessible à tous. Je touche pas d'argent dessus. J'ai même pas ouvert de compte Tipeee, qui soit plus ou moins en relation avec ça. Bon, non seulement par choix, mais aussi parce que, justement, pour cette raison-là, par exemple, je suis là, je peux pas faire ça, je peux pas risquer ça. Il y a une limite de 30 secondes. D'extrait dans l'ensemble, elle est respectée et à condition que ce soit à titre d'hommage, et c'est exactement ça que je fais. à condition que ce soit voilà soit dans une logique d'humoriste, enfin voilà, d'humour, de caricature ou d'hommage, on est autorisé à le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne dit pas ça, ça m'appartient, évidemment, on est tout à fait en possibilité de le faire. Et je répertorie tous les extraits dans le descriptif des épisodes où en fait les gens peuvent tout à fait dans le bon ordre en plus. Donc vraiment, on peut se rattacher à ça, on peut aller chercher, on peut ensuite aller se procurer le film, le disque, etc. Je ne dis pas du tout que ces extraits m'appartiennent ou que c'est moi qui les ai produits. Donc en fait, c'est assez... finalement, ça nous laisse aussi beaucoup de liberté. Voilà. Mais je toucherai ne serait-ce que 1 euro par épisode directement par l'achat d'un épisode. Je pense que ce ne serait pas... légalement, ce ne serait pas autorisé. En fait, ce serait répréhensible.
D'accord, ok. Ok, bah ça nous apporte déjà beaucoup de pistes pour comprendre. Ça a l'air d'être un sacré boulot de réunir tous ces extraits.
C'est vrai que là, par exemple, je viens justement sortir un épisode de Foire aux questions dans lequel il y a zéro montage. J'ai rien mis du tout d'extrait musical, il y a juste ma voix. J'ai coupé les moments où j'ai bafouillé, où j'ai toussé, et c'est tout. Et vraiment, l'épisode dure pourtant 30 minutes, et j'étais là, mais ça prend tellement moins de temps, ça m'a pris, je sais pas, je pense 2 heures en tout, le temps de rédiger et ensuite de m'enregistrer, quoi. Enfin, donc ça n'avait rien à voir avec le travail que j'effectue sur les autres épisodes. Trouver les extraits, c'est pas un problème, parce que en fait les extraits, généralement je les ai déjà en moi, c'est-à-dire que c'est des choses auxquelles je pensais en écrivant. Je me disais, ah tiens, là faut que je mette la Reine des Neiges, là faut que je parle de tel personnage, là ça m'est, je sais pas, il y avait des phrases quoi qui me revenaient en tête aussi, où je me disais, tiens, la phrase de tel film, ce serait bien que je puisse intégrer. Ce qui prenait un peu de temps finalement, c'était plus des fois la recherche de certains extraits, parce que j'ai certaines références qui sont des références d'enfance qui sont un petit peu datées et où c'était compliqué de trouver pile la ligne de dialogue que je voulais. Alors, je savais que dans tel film de 1997 avec Fabrice Luchini, je sais qu'il a telle phrase et que ça aurait pu être drôle de l'intégrer, et où en fait tout simplement elle n'était pas disponible sur internet, quoi. Donc, des fois, c'était un petit peu perdre du temps pendant 20 minutes à chercher un extrait que je voulais mettre pour ne pas y arriver et me dire, ah, je vais faire sans, je vais trouver autre chose. Et oui, après, couper les extraits, essayer de les intégrer, sachant que j'ai zéro expérience de montage, mais vraiment zéro.
Bah, maintenant, t'as un an d'expérience, donc.
Oui, mais alors j'aimerais bien. Après d'être bien renseignée, et quelqu'un hier qui travaillait dans l'industrie du son m'a confirmé que j'avais pris le meilleur micro qui était possible. Donc, je vais bientôt recevoir un micro pour Noël, qui va me permettre d'améliorer déjà la qualité des enregistrements. Et après, par contre, pour le montage, c'est du bricolage de A à Z. Et dès que je pourrai, il faut absolument que je me forme pour améliorer la qualité générale du podcast. Mais ceci étant dit, même si j'ai complètement conscience, et vraiment complètement conscience, vu que je n'ai jamais fait ça auparavant, je peux écrire un peu, moi je peux dessiner un peu, mais du montage sonore, j'en avais jamais fait du tout, quoi. Mmh. Et donc c'est du bricolage total et j'en ai conscience. Même si ça c'est dit, je trouve ça intéressant de voir que mon podcast, il marche quand même. Il marche d'autant plus que vraiment je l'ai créé sans agenda en fait, donc j'avais pas de prétention en fait en le sortant, enfin c'était juste histoire de partager un petit peu de ce qui m'intéressait avec d'autres gens que ça pourrait passionner aussi, et si on regarde ça, ça fonctionne quand même, il y a plein de gens qui l'écoutent, et en fait je dis pas du tout ça pour me faire mousser, je dis ça parce que je suis la première concernée par le syndrome de l'imposteur et ne pas oser faire des choses parce que j'ai pas le diplôme, j'ai pas la formation, je sais pas faire. Il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi. Et donc là, j'insiste un petit peu là-dessus parce que ce podcast, il a fonctionné, mais 1000 fois mieux que ce que j'avais imaginé en termes de retours positifs, en termes d'opportunités que ça a créé, etc. Évidemment, c'est du travail, mais si je compare les efforts et les retours que je reçois, c'est formidable, quoi. Vraiment, c'est que une bonne surprise, c'est génial. Et donc, je le dis pour inciter les gens, parce que j'ai souvent des gens qui m'envoient des messages et qui disent qu'ils n'osent pas se lancer dans mes podcasts, etc. Mais là, je suis la preuve vivante qu'en n'y connaissant rien du tout, du tout, du tout, en fait, c'est possible à condition de bricoler et de le faire sincèrement. Je pense que c'est ça qui est important. Si on le fait sans prétention et avec sincérité et juste en étant, on va dire, le plus authentique possible, en fait, entre ce qu'on fait et pourquoi on le fait et... Mais en fait, ça va passer, ça va passer. Et Z, ça aurait été plus 100 abonnés sur un compte Instagram, mais 100 abonnés qui me suivent et qui me disent « Ah, c'est trop chouette parce que j'ai enfin pu mieux comprendre ce signe. » Mais déjà, rien que ça aurait été génial. Et bon, bah, là, maintenant que c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur, c'est encore plus génial, forcément.
Maintenant que tu as fait les 12 premiers épisodes sur les 12 signes, est-ce que tu vas faire d'autres épisodes pour nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire une planète, une maison et tout ce charabia un petit peu compliqué, les nœuds nord? Enfin, moi j'ai entendu parler de trucs et je les vois dans mes bouquins, mais c'est encore un peu difficile d'accès. Tu as prévu de faire tout ça?
Oui, tout à fait. Au début, je m'étais dit que j'allais vraiment ensuite faire un épisode, par exemple, planète par planète et continuer, voilà, tirer un peu sur ce filon-là. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais plein d'idées et que pour le moment, il n'y avait pas vraiment d'autres podcasts en France, en tout cas, parce qu'au Canada, ils en font pas mal. Mais en France, il n'y avait pas d'autres podcasts hyper généralistes, en fait, sur l'astrologie. Et alors qu'on peut faire plein de choses. Et là, j'ai un petit peu envie de montrer non seulement qu'on peut apprendre l'astrologie, on peut apprendre les planètes, on peut apprendre en effet le système, comment fonctionne une carte du ciel et tout. Donc, je vais continuer de donner ces clés-là, mais aussi de montrer comment est-ce qu'on peut appliquer. Donc, par exemple, analyser la pop culture à travers des dynamiques astrologiques. Ça, j'ai commencé à le faire sur Instagram et j'ai eu un très bon retour quand je faisais des portraits de Greta Thunberg, que je parlais de la dernière série Netflix qui était sortie sous un angle astrologique. Les gens appréciaient énormément. Et donc, je pense que je vais l'intégrer à ça, à Zetcom Zodiac, et j'aimerais aussi faire des entretiens pour donner la parole justement à des personnes qui pratiquent l'astrologie et montrer qu'on n'a pas forcément à être perché. Je dis ça sans péjoratif, hein, parce que moi, j'adore les gens perchés, hein, donc c'est pas un souci. Mais montrer justement qu'il y a une diversité des profils, qu'il y a des gens qui utilisent aussi l'astrologie pour faire passer des messages politiques, qui ont du recul dessus. Et ça, je pense que c'est important aussi qu'on voit émerger un peu plus de ces personnes-là en leur donnant la parole directement, parce que je suis comme tout le monde, des fois j'en ai un petit peu marre qu'on parle à ma place, quand on parle de la nouvelle tendance sorcière, de la nouvelle, du renouveau de l'ésotérisme, et heureusement il y a beaucoup de journalistes, hein, qui se renseignent et qui nous donnent la parole, et puis il y en a aussi plein qui parlent de cette tendance, souvent de manière d'ailleurs assez moqueuse, sans nous demander ce que nous on en pense et comment est-ce qu'on vit. C'est un petit peu dommage.
D'accord. Qu'est-ce que tu penses des astrologues, ouais, je crois que c'est ça, qui parlent des énergies du moment? Est-ce que c'est le type d'astrologie que tu pratiques? Est-ce que tu es plutôt sur les thèmes de naissance? Est-ce que c'est lié et inséparable?
En fait, pour moi, c'est juste des exercices différents. Après, pour les énergies du moment, on peut voir qu'il y a vraiment des choses différentes. Enfin, il y a des gens qui pratiquent plutôt le magnétisme, il y a des gens qui tire les cartes et des fois il l'associe à l'astrologie, hein, c'est pas, mais du coup il y a vraiment des pratiques très différentes, hein. C'est pour ça que par exemple quand on parle de l'ésotérisme, la nouvelle vague de l'ésotérisme, moi il y a des comptes que j'adore sur Instagram par exemple, parce que c'est vraiment là-dessus que ça se retrouve, hein. C'est pas sur Twitter, c'est pas sur Facebook, c'est vraiment la plateforme sur laquelle il y a une communauté qui s'est créée depuis quelques années. Et franchement, il y a des gens que j'adore, il y a des gens je suis pas du tout réceptive, il y a même des comptes je suis méfiante moi-même, enfin voilà, pour aller regarder. Et surtout en ésotérisme, il y a de tout, hein, comme il y a aussi des gens d'extrême droite dans l'ésotérisme, faut vraiment faire attention aussi et continuer d'avoir cet esprit critique sur qui me parle, quel genre de personne c'est, quel genre de parcours, qu'est-ce que cette personne essaye de faire. Oui, est-ce qu'on est dans le domaine du bien-être ou est-ce qu'il y a autre chose? Bon, donc déjà je pense que c'est important aussi d'aller vraiment fouiller, et c'est pas grave de dire telle personne, je respecte ce qu'elle fait, mais je ne suis pas réceptive en fait du tout, ça ne m'aide pas. C'est pour ça qu'on est nombreux et que c'est riche et que il faut aller chercher ce qui nous plaît, quoi. Après, l'astrologie, il y a vraiment de tout, c'est-à-dire que moi, évidemment, ce qui m'intéresse le plus pour le moment, c'est la compréhension de sa propre carte du ciel, donc de son propre parcours, et avec un aspect vraiment développement personnel en fait, où l'astrologie, c'est un outil de développement personnel. J'ai commencé quand même à beaucoup plus regarder ce que je ne faisais pas avant, c'est-à-dire je faisais moins avant les transits planétaires. Donc, de vraiment sentir au jour le jour comment est-ce que le balai en fait des planètes vient influencer notre carte du ciel. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, vraiment, en fait, c'est un petit peu à la carte, en fait. On a le droit de faire ce qu'on veut. Et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Eugénie du compte Astrologreen qui est une collègue, du coup, qui est une collègue et en plus qui est une cliente de mon café parce que le hasard fait qu'on vit, on est voisines en fait, et donc on se voit régulièrement. Et elle, par exemple, elle regarde pas du tout les transits planétaires. Elle s'intéresse vraiment que à la compréhension de carte du ciel. Après, elle a une petite vingtaine d'années, c'est pas dit qu'elle va pas s'y mettre non plus. Les horoscopes, c'est possible aussi d'en faire. C'est possible aussi d'en faire des bons. C'est juste pas la même chose. Et moi, c'est vrai qu'avant, j'étais plus sur développement personnel et astrologie mondiale. Donc, regardez, en effet, bah là, les transits planétaires, mais sur des planètes qui sont beaucoup plus lentes. Donc, c'est moins les transits qui vont nous intéresser que juste leur arrivée dans un signe. Et de voir ce que ça peut déclencher en termes de géopolitique, en termes de grosses tendances sociétales. Et ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant aussi.
Ok, tu connais les horoscopes de Courrier International ?
Ouais, de Robresny, ouais.
Qu'est-ce que t'en penses ?
Ben, moi, j'aime bien, je trouve ça intéressant. C'est juste que c'est pas la même chose. De toute façon, à partir du moment... encore une fois, c'est pas les mêmes exercices. Entre une consultation en tête-à-tête avec quelqu'un, où vraiment là on va pouvoir aller creuser les dynamiques de cette personne, ou des fois ça ressemble vraiment à des séances de psy, ou des fois les gens me racontent des choses où c'est pas, enfin, c'est beaucoup moi qui parle, mais de temps en temps il y a aussi un contact qui se fait avec la personne et qui tout d'un coup me raconte un secret qu'elle porte en elle depuis 10 ans, et que là ça fait écho avec ce que je suis en train de leur raconter d'un point de vue astrologique. C'est pas du tout la même chose que de faire des horoscopes qui sont quand même destinés à un large public. On va pas pouvoir avoir ce lien intime qui est en train de se créer avec les gens. Est-ce qu'il y en a un qui a plus de valeur que l'autre? Pas forcément, parce que des fois, donner aussi un message, s'il est juste et s'il est pertinent, ça peut aussi toucher plein de personnes et ça peut avoir un gros impact. Donc, voilà, je pense pas qu'il y ait un qui ait plus de valeur l'un sur l'autre, mais c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait qu'on a le droit même de dire « moi, je pratique l'astrologie et ça m'intéresse et c'est mon obsession du moment, mais pour le moment, même les horoscopes intéressants, qui sont censés être intéressants, poétiques, pertinents, etc., ça ne me parle pas. J'ai trop l'impression qu'on me donne des conseils un peu fous et tout, ça ne me parle pas. On a le droit, en fait, de dire ça. Moi, je sais qu'il y a des choses qui m'intéressent, mais je vois la différence. Je vois la différence entre ça et une étude hyper poussée d'une carte où on va aussi s'intéresser aux petits détails, quoi. Enfin, on va s'intéresser à... Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post sur Instagram où je parlais du fait que mon grand-père me surnommait la flèche. Et la flèche, c'est le symbole du Sagittaire. Et quand plus tard, j'ai découvert en effet que j'avais une énergie du Sagittaire très présente dans ma carte, le surnom la flèche m'est tout de suite revenu. Et je l'ai mis en relation avec les choses, en effet, que je vivais dans mon enfance. Et ça, c'est vraiment un travail, en fait, que moi, j'incite les gens à faire, parce que des fois, ça peut faire des épiphanies. Voilà, des fois, ça peut vraiment se dire, oh, mais bien sûr, ça a du sens, en fait. C'est ce qui m'est arrivé, ce qui est en train de m'arriver. Et c'est des choses aussi bêtes comme ça que sur un surnom qu'on nous a donné, et on voit à quel point ça a pu cristalliser, en fait, plein de choses. C'est différent. C'est différent entre ça et l'analyse du dernier film Marvel, et de dire ça c'est marrant parce que ça parle de plein de choses qui sont en train de se passer en astrologie mondiale. Voilà en quoi est-ce que moi j'ai l'impression que le film il nous parle de ça finalement, qu'il est l'écho de ce qui se passe dans le ciel en ce moment. C'est différent d'une consultation de personne à personne, voilà. Et c'est différent des horoscopes de Courrier International.
Ouais. Toi, à titre personnel, en quoi l'horoscope, enfin, pardon, pas l'horoscope, en quoi l'astrologie t'aide ? Pourquoi tant de passion pour l'astrologie ?
Parce que moi je suis quelqu'un d'extrêmement mélancolique, de moins en moins, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille dessus.
Et c'est dû à quel signe ça ?
Alors pour moi, c'est surtout dû au fait que je suis très saturnienne. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de Capricorne dans ma carte. J'ai la moitié de mes planètes qui sont en Capricorne. Et le Capricorne, c'est une énergie que j'aime beaucoup, mais c'est une énergie qui est une énergie très froide et qui peut avoir, ce serait trop long à expliquer, mais voilà, qui peut avoir en effet un aspect très mélancolique. Ça s'explique aussi par d'autres choses dans ma carte. Et, donc voilà, je suis hypersensible. J'ai pas été diagnostiquée, mais bon, ce serait une longue histoire, mais a priori, je suis dans la case au potentiel, etc. Et en fait, moi, j'ai été, oui, très déprimée pendant longtemps. Il y avait une recherche de sens, je pense, qui a toujours été là en moi. J'ai toujours essayé de mettre du sens sur les choses. Et en fait, la mélancolie, elle vient du fait que souvent, on n'a pas de réponse. Et c'est vrai que la vie a un côté très absurde sur plein d'aspects. Et donc, en fait, l'astrologie, c'est en ça que ça m'aide. C'est parce que moi, si je dois définir mon but dans la vie, en effet, c'est de mettre le plus de sens possible sur les choses. Il n'y a rien de pire que faire un travail où on a l'impression que ça n'a pas de sens. Pour moi, il n'y a rien de pire. C'est ça qui m'a fait péter un câble quand j'avais 20 ans. C'est pour ça que je n'ai pas forcément aimé les études à Sciences Po parce que il y avait une approche que je trouvais déconnectée de la vie des gens au quotidien, de ce que je voyais de la vie politique au quotidien. Et le manque de sens, pour moi, c'est ce qui peut vraiment me faire plonger, en fait. Et l'astrologie, c'est l'inverse de ça. L'astrologie, c'est une grille de lecture. Donc, l'idée, c'est au contraire de... Pas d'expliquer, hein, c'est pas la même chose, mais il s'agit pas d'explication, mais il s'agit d'essayer de saisir ce qui est en train de se passer, saisir les dynamiques qui sont en jeu. Voilà, donc c'est pour ça que ça me passionne autant. Et maintenant que j'ai grandi et que j'ai travaillé sur moi, je suis complètement apte à entendre qu'on ne saura jamais, que peut-être la vie n'a aucun sens. Mais en fait, le sens, on peut en donner. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de croire en l'astrologie. Il ne s'agit pas de croire « Ah, super, il y a une force supérieure, l'univers est avec nous, qu'on l'appelle Dieu ou autre chose, il y a quelqu'un là, et en fait, on est forcément amené à un destin, quel qu'il soit, et on va pouvoir juste suivre ce que les astres nous disent. » Alors, les gens qui s'intéressent à l'astrologie comme ça, je peux d'emblée vous le dire, j'en suis désolée, je vais vous faire un thé et vous offrir des petits gâteaux, mais c'est pas ça. Je suis navrée, mais l'astrologie n'aura pas de réponse non plus claire, nette et définitive, en tout cas pas celle que je pratique. Mais elle est vraiment là pour nous encourager à mettre le plus de sens possible dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, y compris dans nos impossibilités, dans nos échecs, voilà. Et à partir du moment où on comprend quelque chose de ça, en fait, on peut avancer. Et on peut continuer à avancer. Moi, c'est pour ça que ça me passionne.
Comment est-ce que tu... Parce que de la même façon que moi, dans le MBTI, j'arrive à voir des liens entre, par exemple, le zèbre, quand il est extraverti, ça se matérialise comme ça. Quand il est introverti, ça se matérialise comme ça. Mais en même temps, je pense qu'il est plutôt de ce côté de cette lettre-là, je ne sais pas quoi. Est-ce que toi, tu as réussi à faire des liens aussi entre le haut potentiel, par exemple, et alors, je ne vais pas dire certains signes, parce que j'imagine que les gens à haut potentiel naissent à tous les moments de l'année. Mais ou l'expression peut-être de certains signes, est-ce que tu arrives à faire des liens?
Oui, alors en fait, il faut savoir que donc tous, quand on parle d'astrologie, on a tendance à parler de son signe solaire. On dit je suis bélier, je suis balance, je suis... En fait, une carte du ciel de naissance, il n'y a pas que le soleil dedans. Loin de là. En fait, il y a... allez, selon les écoles, parce qu'il y a des écoles d'astrologie, entre 7 planètes à regarder, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de planètes. Donc, autant vous dire que, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à regarder. Et en fait, en gros, ces planètes, elles forment ce qu'on appelle des aspects, en fait. C'est-à-dire que les planètes, dans une carte de celle de naissance, parfois elles s'entendent bien, parfois elles s'entendent moins bien, elles fonctionnent moins, il va falloir les forcer à dialoguer pour essayer de trouver un compromis entre elles et éviter qu'elles soient source de blocage. J'explique ça parce que donc c'est très complexe. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas juste le soleil qu'il faut regarder, parce que ce serait bizarre que et ça n'aurait aucun sens en fait. Si oui, toutes les personnes nées entre le 21 juillet et le 21 août sont comme ça. Voilà, c'est non, ça n'a aucun sens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder en effet une carte du ciel et moi, j'ai remarqué certains aspects de planètes entre elles. Encore une fois, c'est à voilà, nuancer, etc. Mais ça avait tendance à faire émerger certaines choses. Ouais. Donc, ça peut être, par exemple, c'est moins sur le haut potentiel que sur l'hypersensibilité, qui est une forme de haut potentiel, mais l'hypersensibilité, par exemple, moi, je l'ai souvent remarqué sur un aspect qu'on appelle un carré entre la Lune et Jupiter, par exemple. C'est pas automatique, hein, mais moi, j'ai remarqué plusieurs fois. Ouais, j'ai vu les récurrences, je l'ai dans ma carte aussi, d'ailleurs. Et donc, la Lune, elle représente... notre fabrique des émotions instinctives, c'est aussi notre enfant intérieur. Et une lune qui va être en... Et donc, oui, c'est vraiment la fabrique des émotions, quoi. Et la lune qui est en carré, donc un peu comme si elle essayait d'entrer par la porte et qu'il y avait Jupiter qui essayait aussi d'entrer par la porte et qui se cognait tous les deux. Et ils n'arrivent pas à dialoguer, ils n'arrivent pas à équilibrer les choses naturellement. Et Jupiter, ça représente notre capacité d'expansion. C'est... Et une planète qui nous parle des excès aussi. Et une planète qui peut, oui, parler... c'est très large, hein, parce que voilà, après, il faut vraiment analyser dans, un, dans une carte. Mais qui parle aussi de... Y compris de ce qu'on va projeter sur les autres, sur le collectif, un peu dans un idéal de faire corps avec eux, en fait, de faire corps avec le collectif et de pouvoir s'épanouir dans le collectif. Et les deux, quand ils ne s'entendent pas, moi j'ai souvent remarqué que ça faisait des gens qui étaient hypersensibles. Ouais. Donc voilà. On pourrait en parler pendant des heures. Okay.
Mais... Génial. Est-ce que tu penses que si on habitait sur Mars, l'astrologie existerait aussi? Et du coup.
Alors c'est un énorme sujet. Ouais, en fait, il faudrait complètement qu'on revoie notre méthode de calcul. Donc ce serait assez fascinant. En fait, quand on regarde une carte du ciel. Ça se présente sous une forme de rond, parce que ça représente le ciel tout autour de nous. Et en fait, donc au centre de ce rond, il y a le centre, quoi. Il y a le centre, il y a un autre cercle. Et en fait, on a tendance à dire, toi, tu es au milieu de ce cercle. Tu es au milieu de cette sphère céleste, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est pas nous. En fait, c'est la Terre. Et c'est ça qui est intéressant. Si on... Évidemment, l'astronomie et l'astrologie, c'est très différent, mais plus on s'y connaît en astronomie, c'est pareil, meilleur on devient en astrologie. Et donc, en fait, c'est comme si, oui, au centre, c'était notre point de vue, mais en fait, c'est le point de vue de la Terre. Et puisqu'on est sur Terre et qu'on fait tout le calcul à partir de notre place sur Terre, à partir de, justement de données aussi astronomiques, latitude, longitude, etc. Et d'axes de rotation, enfin... Donc, en fait, les cartes du ciel ne seraient plus les mêmes. Donc, Mars, qui apparaît parmi les planètes tout autour de cette sphère céleste, disparaîtrait et on naîtrait sur Mars. Mais ça aussi, d'ailleurs, je trouve ça intéressant quand on parle d'astrologie mondiale, notamment. On n'est pas destiné, en fait, à quitter la Terre d'un point de vue astrologique. On peut aller vers de l'exploration. Mais on est des terriens. Et en fait, c'est tout notre rapport à l'astrologie et à notre quête de sens qui parle de ça. Donc, voilà, vraiment sans bloquer, sans dire, du coup, faut pas qu'on aille faire des missions, faut pas qu'on aille. Non, parce qu'on est à un domaine d'exploration. Mais en fait, il y a vraiment cette idée peut-être de prendre soin de soi et donc de prendre soin de la Terre avant tout pour essayer de la sauver, pour continuer d'avoir ce point de vue-là. Parce que là, c'est même pas de la... Enfin, c'est être déraciné. C'est ça qui nous attend, en fait. Si on continue de vivre comme colonie humaine ailleurs... Ça va bouleverser notre quête de sens. Je ne dis pas qu'on ne s'en remettra jamais, je ne dis pas que c'est impossible, mais on va échapper à ce qui faisait jusqu'à présent le sens même, enfin, je sais pas, l'essence même, c'est pas le sens, mais l'essence même d'une vie humaine, elle est censée se passer d'un point de vue terrestre.
Ouais, donc en fait, si on envisageait une grosse migration de colonisation de Mars et qu'on avait des futurs humains qui naîtraient sur Mars, des non-terriens, des nouveaux martiens, on va dire. Du coup, ça remettra en question complètement le dogme.
Complètement. Mais ce serait possible. On pourrait continuer à en faire. C'est juste que ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Et ça changerait complètement l'exercice. Et parce que je pense que ça changerait aussi, oui, la nature de notre humanité, en fait. Je vais juste brancher mon ordinateur parce que je vois plus. T'arrives tout de suite. Désolée, tu devras donc couper au montage.
Ouais, ok, bon, on va tarder à terminer. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut qu'on sache sur l'astrologie justement la question par où commencer, si on veut en savoir plus, si comme moi, on n'a toujours pas compris ce que ça veut dire les maisons. On fait quoi? On va où?
Alors, on attend mon livre qui sort au printemps.
Ok, très bien.
Je sors un livre, justement. Bon, je ne peux pas donner non plus toutes les infos encore. Je ne suis pas autorisée, malheureusement. Mais ça va sortir là, je pense, en mars 2020, avril 2020.
Donc, tu vas en parler sur ton compte Instagram, par exemple?
Ouais, j'en parlerai sur mon compte Instagram quand ça va sortir. Et j'explique tout ça dedans, puisque c'est une espèce de manuel, en fait, pour décrypter sa propre carte du ciel. On parlait d'exercice tout à l'heure. Là, ce sera un exercice aussi extrêmement différent que une consultation avec une astrologue. C'est parce que il a fallu s'adresser au plus grand nombre et qu'en fait, il faut donner des pistes qui puissent être utiles à tous. Mmh. Voilà, sans que j'aie pour le détail du reste de la carte. Donc, on a essayé de pousser ça aussi loin que possible, en fait. Voilà, ce sera un autre exercice. Mais en tout cas, dedans, tout ce qu'il faut savoir pour décrypter sa carte du ciel, toutes les bases, on va dire, et même un peu plus, ce sera présent. Il y aura les signes, les maisons, les planètes, etc. Voilà. Okay. Il y aura tout le nécessaire, on va dire.
Par curiosité, une autre question. Si je te donne ma carte du ciel, est-ce que tu es capable de trouver ma date de naissance?
Alors, si j'étais une astrologue à l'ancienne, oui. Parce que il fut un temps où il n'y avait pas des logiciels qui enregistraient toutes les éphémérides. Et où les astrologues du coup étaient contraints avant de se lancer dans la phase d'interprétation, ils étaient obligés de dresser la carte du ciel eux-mêmes. Donc pour ça, il fallait avoir des bouquins par centaines chez soi qui répertoriaient tous les éphémérides. Il y avait une méthode de calcul aussi très, comme je disais, qui fait appel à l'astronomie. Donc latitude, longitude, l'axe de rotation, selon la ville dans laquelle on est, etc. Et donc, les astrologues s'y connaissaient aussi beaucoup mieux que nous maintenant sur le rythme des planètes. Et donc, parce qu'ils étaient contraints, en fait, à force de le faire, tu finis par te rappeler, tu finis par calculer. Ton cerveau, en fait, fait en tâche de fond, il fait aussi ce calcul-là. Bon, pour moi maintenant qui me suis intéressée à l'astrologie au moment où c'était déjà possible de juste rentrer les coordonnées de quelqu'un sur un logiciel qui a été vérifié par des astrologues, on sait que c'est fiable et ça nous permet de voir la carte apparaître tout de suite et de passer immédiatement à la phase d'interprétation. Moi, je vais avoir du mal à le faire, mais c'est intéressant et justement de garder ça en tête parce que ne serait-ce qu'en justement on parlait d'astrologie mondiale. Ouais, ça nous permet aussi de maintenir en fait ce lien-là avec l'astronomie qui est très fort. Voilà. Donc pour répondre à ta question, moi je ne le pourrais pas, mais très certainement ma tante par exemple, qui a fait tout son apprentissage, toute sa formation d'astrologue à une époque où elle s'y prenait à l'ancienne, oui, elle serait tout de suite beaucoup plus capable de dire. Ah. Voilà. Après, si tu me donnes ta carte, je peux déjà te dire le mois. Je peux te dire le mois dans lequel tu es né, a priori, avec le soleil. Et je peux te dire à peu près à quel moment de la journée, a priori, tu es né. C'est parce que ça dépend de la place du soleil sur ta carte. Voilà.
Ok. De la place du soleil ou de la lune? Non.
Non, du soleil. Selon la place du soleil sur la carte. Parce que la carte, en fait, il y a une indication qui se fait par rapport à l'heure. C'est la ligne d'ascendant. C'est elle qui décide de où commence la carte. Ça forme un axe à l'horizontale qui, en fait, correspond à la ligne d'horizon. Et donc, en fait, en gros, si on est né plutôt tôt dans la journée, le soleil est en bas. Et plus on avance dans la journée, plus le soleil se retrouve sur le haut, entre guillemets, de la carte, c'est-à-dire au sud, puisqu'il y a un autre axe à la verticale et un axe qui s'appelle celui du milieu de ciel qui, en fait, trace le midi. Donc, les gens qui sont nés plutôt vers le midi et la suite de la journée, et ben dans ce cas-là, leur soleil sera tout en haut de la carte.
Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu connais la synesthésie?
Oui, tout à fait, oui, bien sûr.
Donc moi, je fais partie de ces fous-là. On est plusieurs synesthètes. Ah, quand on voit pour la première fois une carte du ciel, surtout celle de notre thème natal, à le voir en fait comme on visualise l'année, alors que personne nous a appris que dans mon cas décembre est en bas à gauche quoi. Ça, c'est moi qui visualise comme ça.
Je fais cette synesthésie-là aussi, donc en plus, du coup, c'est intéressant.
Voilà. C'est la mathématique avec les couleurs, là. Enfin, les nombres et les couleurs.
Ouais, moi, en fait, je le fais avec. C'est différentes sortes aussi de synesthésie, parce que je m'étais intéressée aussi. Et moi, en fait, c'est sur ma représentation au temps. Et les personnes du coup qui se connaissent un peu en astrologie vont se marrer du fait que j'ai beaucoup de Capricorne et que j'ai un truc sur la représentation au temps. Et donc oui, j'ai une représentation qui est même pas en 3D, c'est en il y a vraiment, enfin c'est toute une galère pour moi à chaque fois que je pense à une date et je l'ai pas réalisée avant de découvrir le potentiel quand j'avais 20 ans et que c'est pas normal de, entre guillemets, de penser comme ça.
Donc, pour toi, le mois de décembre,
vas-y, continue.
Où se trouve le mois de décembre?
Alors, pour moi, il est... Ça dépend d'où est-ce que moi, je me situe sur ma carte. D'accord. Parce qu'en fait, moi, je bouge sur la carte. C'est-à-dire que vraiment, j'ai une espèce de circuit comme ça en 3D et après, je suis capable de bouger. Mais on va dire que, parce que je peux me mettre en hauteur, en fait, sur la carte, c'est comme si... oui. Si j'essaye d'avoir vraiment de la prendre justement comme sur une feuille comme ça, sans profondeur, il est en bas à gauche. Il est en bas à gauche avant de passer à janvier qui est en bas. Okay. Pour moi, ça fait une espèce de cercle qui est plus ovale.
Hein. Ouais. Et du coup, tu serais positionnée sur ton mois de naissance? T'es née en hiver?
Ouais, c'est ça, je suis née en janvier. Ouais, je suis née le 17 janvier, donc je suis en bas juste après la petite courbe qui passe de décembre à janvier. Voilà.
Donc ça confirme la théorie. Ok. Très intéressant.
Ça confirme ta théorie sur quoi exactement du coup?
Bah, c'est ça en fait, que la synesthésie, alors, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle où on voit les chiffres en couleur et donc le temps dans l'espace, c'est la même synesthésie a priori. On voit en général l'année en forme d'ellipse autour de nous plus ou moins et on serait plutôt situé sur notre mois de naissance.
D'accord, ok.
J'ai l'impression que c'est un peu comme quand on arrive sur notre carte du ciel, tu vois, à la naissance, on s'incarne, et du coup, c'est tel que le ciel était peut-être le jour où on s'est incarné.
Ah, après, moi, c'est drôle, vraiment, moi, je bouge en fait sur cette ellipse de temps. Voilà, je bouge, mais comme une montagne russe, tu vois. Enfin, je suis vraiment capable de bouger d'un mois à un autre, de même d'un jour à un autre, parce qu'après, évidemment, il y a des subdivisions, mais ça fait cette espèce de... Et de pelote de laine, d'ailleurs, parce que d'une année à une autre, voilà. C'est comme s'il n'y a pas de fin. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, on fait un tour, comme une pelote de laine.
Ouais. Moi, j'ai ça pour la semaine, le côté
aussi.
Circuit de moto, quoi, qui monte et qui descend.
Exactement. Mais ça le fait aussi. C'est pour ça qu'après, ça peut aussi... Ouais. Je pense que si on zoome après, il y a des... C'est comme... Enfin, voilà, c'est... En effet, c'est ces trucs au microscope que tu ne vois pas. T'as l'impression que c'est lisse et en fait, si tu fais encore un zoom, non, en fait, à l'intérieur, c'est pas lisse, il y a encore des subdivisions.
Ouais. Alors, je sais pas si les non-synesthètes ont suivi la conversation, mais c'est passionnant.
C'est assez fascinant, en effet.
Du coup, mes deux dernières questions, est-ce que toi, tu fais des consultations pour interpréter la carte du ciel et tout ça?
Oui, absolument. Alors, je vais lancer d'ailleurs vraiment une activité professionnelle à partir de 2020, mais c'est déjà possible de me contacter directement, donc soit via mon compte Instagram ou par mail. Pour le moment, c'est des séances qui durent une heure. J'annonce pas de tarif parce que je suis aussi dans une logique où je m'adapte un petit peu comme un psy. Ça va s'adapter aussi aux gens, à leurs besoins, à leurs soucis. Donc c'est aussi aux gens de m'exprimer ce dont ils ont besoin et ce qu'ils sont capables de dépenser d'une manière ou d'une autre pour ça. Mais j'aurai un site qui va détailler, qui va donner vraiment des offres une fois que mon activité professionnelle sera créée et des offres de base. Voilà. Sinon, il y a aussi les Astro Cafés. Je ne sais pas s'ils auront déjà lieu au moment où tu vas publier cet entretien, mais les prochains, c'est donc 3 samedis. Il vaut mieux assister aux 3 samedis parce que ça forme un cycle dans sa totalité. Les 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre, le samedi après-midi de 16h à 18h. Par contre, il faut se déplacer. C'est donc au Poetic Café, c'est dans le 18e arrondissement de Paris. Et c'est vraiment une classe, hein, c'est Poudlard. Hein, donc voilà, j'ai une classe devant moi. Et l'idée, c'est de donner des clés, les clés de base pour pouvoir justement décrypter n'importe quelle carte du ciel. Généralement, les gens viennent avec la leur. Mais après, de vraiment faire un cours d'astrologie, en fait, un cours magistrale, entre guillemets, parce que les gens peuvent tout à fait poser des questions. Mais ouais, de faire une petite formation, on va dire, d'astrologie qui soit accessible. Et c'est 12 euros par séance, soit 36 euros au total pour 6 heures de formation.
Ok. Et donc, du coup, ton adresse mail, c'est quoi ?
Z comme Zodiac@gmail.com. Voilà, Z comme Zodiac, tout attaché. Et Zodiac écrit Q-U-E à la fin et pas avec un C. Ça arrive de temps en temps que les gens l'écrivent à l'anglo-saxonne. Et donc, forcément, l'adresse, c'est pas elle.
J'ai fait cette erreur.
Navré.
Super, merci de préciser. Donc, on peut continuer à te suivre et puis on verra bien les prochains épisodes qui sortiront.
Oui, tout à fait. Soit avant la fin de l'année, mais je pense que ça va être un petit peu tendu avant les vacances de Noël. Sinon, ce sera en janvier 2020 sans aucun souci. Il y aura les nouveaux épisodes. Là, pour le moment, on peut encore écouter ou réécouter les 13, quasiment 14 premiers épisodes qui parlent des 12 signes. Il y a aussi un épisode d'introduction et un épisode qui vient un peu conclure en foire en question que je viens de sortir. Et sur Instagram, c'est vraiment le réseau social que j'utilise le plus, que je privilégie et sur lequel il y a aussi du contenu en plus puisque je fais des stories de temps en temps. Si jamais j'ai vu un film ou que j'ai envie d'aborder un sujet, je vais faire des posts supplémentaires. Donc, c'est aussi une source en fait d'informations pour venir manifester ce qu'on a déjà entendu. Voilà.
Topissime. Trop bien, ben, merci beaucoup Mathilde.
Et, merci à toi.
Ben, à très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Ciao.